Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec un de mes idoles. Quand j'étais tout petit et que je grandissais, on entendait parler beaucoup du Tour de France chez moi, et d'un nom, Ronan Pinsec. Ronan Pinsec, merci d'être à l'antenne d'SBS.
Bonjour, je vous en prie, merci de m'accueillir.
Quelle histoire que vous avez eue sur le vélo. On va parler de ce que vous faites maintenant, mais surtout on va revenir un petit sur votre carrière, une carrière de cycliste. Vous avez porté le maillot jaune, de beaux succès. Vous vivez ça comment maintenant que c'est passé un peu dans votre histoire à vous?
Je prends ça avec beaucoup de recul. Pour moi c'était une première vie. Très enrichissante humainement, beaucoup de joie, beaucoup de privations aussi, parce que c'est quand même un métier qui est très dur. J'ai coutume de dire j'ai eu une vie de moine pendant un certain temps, et puis une fois que ça s'arrête, parce que on devient un jeune vieux, il faut rebondir et essayer de trouver quelque chose qui vous corresponde. Pas évident dans le sens où on est quand même habitué à bouger beaucoup, à avoir aussi quand même beaucoup d'émotions. Trouver un job après qui corresponde à ça, faut trouver, un bon compromis.
Des émotions, vous en avez eu dans votre vie, notamment maillot jaune le jour de votre anniversaire, je crois que ça c'est un des grands moments.
Oui, c'est vrai, c'est un moment, un grand moment, et aussi un moment sympa, quoi, parce que déjà, pour un coureur cycliste, avoir le maillot jaune, c'est quand même quelque chose de fort, important. La preuve, on m'en parle encore, et en plus, qui plus est, le jour de mon anniversaire, une étape de montagne, c'était émouvant. Et le seul petit truc, c'est que comme on était en montagne, il y avait quand même beaucoup de pression et beaucoup de concentration, ça fait partie de la vie.
Un maillot jaune, ça change vraiment la vie dans un coureur cycliste?
Ça change. En fait, je dirais oui, non. Ça change dans le sens où on m'en parle encore maintenant. Donc, en fait, on en parle longtemps après, parce que on a été maillot jaune. Après, moi, ça m'a pas changé forcément de statut ni de contrat, parce que j'avais quand même eu de bons résultats avant, donc c'était plus, une confirmation. Parce que mes premiers tours, une fois j'ai fait 6e, une fois j'ai fait 7e, donc c'était pas trop mal. Mais effectivement, c'est plus dans l'après-carrière qu'on continue à en parler, et que malgré tout, oui, ça peut ouvrir des portes quand même.
D'accord. Une dernière question cycliste, et après on va parler de ce que vous faites aujourd'hui. Comment vous vivez cette période actuelle? Aujourd'hui, on a Pogacar, Vingegaard, des jeunes loups qui vraiment cassent les règles. Et on parle beaucoup, ça revient à un cyclisme à la Merckx, à la grande époque, même à la Bernard-Hinault. Vous étiez vécu cette période, pas la période Merckx, mais la période Bernard-Hinault et ce qui s'ensuit. Vous le vivez comme ça? Parce qu'il y a eu une période où ça écrémait par l'arrière. Mais aujourd'hui, ça écrème par le haut, et c'était déjà ça avant. C'est pas vraiment nouveau dans le cyclisme.
Disons que c'est vrai que on a eu une certaine période, et ça a commencé avec Indurain, donc ça me concerne, jusqu'au Sky, quoi. Entre les deux, il y a toute la période d'Armstrong où les équipes étaient vraiment très très fortes, ils cagnassaient la course, et puis ça roulait très fort, et effectivement ça sortait par l'arrière. Donc là, pour dire franchement, on s'ennuyait quand même fortement. Certes, les coureurs étaient très forts, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Et en fait, je trouve que ça a commencé, ce nouveau cyclisme entre guillemets, ou cet ancien cyclisme, un peu quand Bernal est arrivé là. Et après, c'était Pogacar, et puis Pogacar, c'est vrai qu'il a enflammé tout le monde. Et l'an dernier, il y a un autre coureur qui sort de nulle part, un Danois que sincèrement personne ne connaissait, et qui vient également chambouler le tout. Et cette année, les deux étaient au top niveau, et ça s'est vraiment bien bagarré. Donc ça augure encore de belles années. Et donc c'est vrai que la manière de courir est vraiment très instinctive, quoi. On voit là Pogacar, quand il a envie d'attaquer, il attaque. Et voilà, c'est pas calculé, quoi. Et ça, c'est, ça fait vraiment plaisir. Et bon, on voit bien, quoi. Les gens suivent le Tour de France, les audiences, je sais pas comment c'est en Australie, mais en tous les cas, en France, les audiences sont très bonnes, donc voilà, quoi.
Si, si, ça cartonne, je vous rassure. Alors, votre vie d'aujourd'hui, vous assistez le réalisateur sur le signal international, donc c'est les images qu'on voit en Australie. Vous essayez de leur donner une histoire à ces images, vous aidez le réalisateur à raconter l'histoire du jour.
En fait, concrètement, comment que ça s'est passé? Moi, j'arrive, j'arrête ma carrière... mi-97, et à partir de là, il y a un nouveau réalisateur qui venait d'arriver sur le Tour de France. Et puis voilà, le directeur des sports de l'époque, qui s'appelle Jean Réveillon, a voulu intégrer un consultant sport vraiment pour entre guillemets scénariser le direct télé. Et parce qu'il y a quand même de passionnés vélo qui regardent le cyclisme et qui veulent vraiment voir vraiment du vélo. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui regardent le Tour de France parce qu'il y a des châteaux, enfin qu'on découvre la France. Donc tout ça, ça fait un melting pot et il faut quand même voilà, qu'il y ait de belles images, mais aussi de belles images de course. Donc du coup, moi, mon rôle est de conseiller le réalisateur dans le choix des images sur la partie sportive. Donc moi, je suis tout le temps dans l'anticipation quand les gars vont attaquer. Moi, je parle avec les caméramans qui sont sur les motos, dans les hélicoptères. Je leur demande d'aller chercher tel coureur. Fais-moi un gros plan sur son genou parce qu'il est tombé, sur son dérailleur parce qu'il tire un gros braquet. Enfin voilà, j'essaie de changer un peu les choses et d'avoir une image purement sportive.
Ah, c'est super intéressant en fait comme rôle. Ah, une dernière question sur les coureurs australiens. C'est à l'autre bout du monde du Tour de France. Par contre, ils arrivent quand même à faire des étincelles sur le Tour de France. Il y a une vraie culture du vélo en Australie et on la connaît, cette culture du vélo australien, en France.
Bah, moi, j'ai bien connu Phil Anderson, d'accord, Phil Anderson. Après, donc il y avait déjà, en fait, c'est un peu lui qui a été le pionnier. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière en 85 chez Peugeot. Bon, il était parti, mais voilà, il a quand même beaucoup couru pour Peugeot. Et après, les premières courses de Stuart O'Grady, il est venu, il avait signé chez nous. Donc, du coup, c'était l'équipe Z. Et en fait, on était souvent ensemble en chambre, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que le cyclisme australien, je le connais un petit peu. Et pourquoi ? Parce que il n'y a pas de raison. Parce que voilà, à partir du moment où il y a des passionnés de cyclisme et des gens qui aiment bien le vélo, sur le nombre, il y a toujours quelques champions qui sortent, quoi.
Mais c'est intéressant de savoir que l'Australie était connue beaucoup pour sa vitesse, les sprinteurs. Aujourd'hui, il y a des coureurs qui peuvent gagner vraiment le Tour et comme Jai Hindley gagner le Giro, des gens bons en montagne.
Oui, mais effectivement, c'est un peu passé par la piste. Stuart O'Grady, il était un ancien pistard. Mais je veux dire, à partir du moment où les coureurs, ils ont un gros moteur, ils passent partout, quoi. Donc effectivement, là-dedans, il y a des coureurs qui roulent très vite, mais qui ont aussi une corpulence correcte pour passer les montagnes. Et à partir de là, ça fait des grands champions, quoi.
Merci Ronan Pinsec.
J'en prie, merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.